L'anxiété de savoir ce que deviendrait Bonhomme, son vieux cheval, s'il mourait avant lui. Maintenant, la pauvre bête, complètement aveugle, les jambes paralysées, ne quittait plus sa litière. Lorsque son maître la venait voir, elle entendait pourtant tourner la tête, était sensible aux deux gros baisers qu'il lui posait sur les naseaux. Tout le voisinage haussait les épaules, plaisantait sur ce vieux parent que le docteur ne voulait pas faire abattre. Allait-il donc partir le premier, avec la pensée qu'on appellerait l'écarisseur le lendemain? Et un matin, comme il entrait dans l'écurie, Bonhomme ne l'entendit pas, ne leva pas la tête, il était mort. Il gisait, l'air paisible, comme soulagé d'être mort là, doucement. Son maître s'était agenouillé et il le baisa une dernière fois. Il lui dit adieu, tandis que deux grosses larmes roulaient sur ses joues. Ce fut ce jour-là que Pascal s'intéressa encore à son voisin, M. Belombre. Il s'était approché d'une fenêtre, il l'aperçut par-dessus le mur du jardin, au pâle soleil des premiers jours de novembre, faisant sa promenade accoutumée. Et la vue de l'ancien professeur, vivant si parfaitement heureux, le jeta d'abord dans l'étonnement. Il lui semblait n'avoir jamais songé à cette chose qu'un homme de 70 ans était là, sans une femme, sans un enfant, sans un chien, et qu'il tirait tout son égoïste bonheur de la joie de vivre en dehors de la vie. Ensuite, il se rappela ses colères contre cet homme, ses ironies contre la peur de l'existence, les catastrophes qu'il lui souhaitait, l'espoir que le châtiment viendrait, quelques servantes maîtresses, quelques parentes inattendues qui seraient la vengeance. Mais non, il le retrouvait toujours aussi vert. Il sentait bien que, longtemps encore, il vieillirait ainsi, dur, avare, inutile et heureux. Et cependant, il ne l'exécrait plus. Il l'aurait plaint volontiers, tellement il le jugeait ridicule et misérable de n'être pas aimé. Lui qui agonisait parce qu'il restait seul. Lui dont le cœur allait éclater parce qu'il était trop plein des autres. Plutôt la souffrance seule que cet égoïsme, cette mort à ce qu'on a de vivant et d'humain en soi. Dans la nuit qui suivit, Pascal eut une nouvelle crise d'angine de poitrine. Elle dura près de 5 minutes. Il crut qu'il étoufferait, sans avoir eu la force d'appeler la servante. Lorsqu'il reprit haleine, il ne la dérangea pas. Il préféra ne parler à personne de cette aggravation de son mal. Mais il garda la certitude qu'il était fini, qu'il ne vivrait pas un mois, peut-être. Sa première pensée alla vers Clotilde. Pourquoi ne lui écrivait-il pas d'accourir? Justement, il avait reçu une lettre d'elle la veille, et il voulait lui répondre ce matin-là. Puis, l'idée de ses dossiers lui apparut soudain. S'il mourait tout d'un coup, sa mère resterait la maîtresse, elle les détruirait. Et ce n'étaient pas seulement les dossiers, mais ses manuscrits, tous ses papiers, 30 années de son intelligence et de son travail. Ainsi se consommerait le crime qu'il avait tant redouté, dont la seule crainte, pendant ses nuits de fièvre, le faisait se relever frissonnant, l'oreille aux aguets, écoutant si l'on ne forçait pas l'armoire. Une sueur le reprit. Il se vit dépossédé, outragé, les cendres de son œuvre jetées aux 4 vents. Et tout de suite, il revint à Clotilde. Il se dit qu'il suffisait simplement de la rappeler. Elle serait là, elle lui fermerait les yeux, elle défendrait sa mémoire. Déjà, il s'était assis. Il se hâtait de lui écrire pour que la lettre partît par le courrier du matin. Mais, lorsque Pascal fut devant la page blanche, la plume au doigt, un scrupule grandissant, un mécontentement de lui-même l'envahit. Est-ce que cette pensée des dossiers, le beau projet de leur donner une gardienne et de les sauver, n'était pas une suggestion de sa faiblesse, un prétexte qu'il imaginait pour revoir Clotilde? L'égoïsme était au fond. Il songeait à lui et non à elle. Il la vit rentrer dans cette maison pauvre, condamnée à soigner un vieillard malade. Il la vit surtout dans la douleur, dans l'épouvante de son agonie lorsqu'il la terrifierait, un jour, en tombant foudroyé près d'elle. Non, non, c'était l'affreux moment qu'il voulait lui éviter. C'était quelques journées de cruels adieux, et la misère ensuite, triste cadeau qu'il ne pouvait lui faire sans se croire un criminel. Son calme, son bonheur à elle seul comptait. Qu'importait le reste ? Il mourrait dans son trou, heureux de la croire heureuse. Quant à sauver ses manuscrits, il verrait s'il aurait la force de s'en séparer en les remettant à Ramon. Et même si tous ses papiers devaient périr, il y consentait. Et il voulait bien que rien de lui n'existât plus, pas même sa pensée. Pourvu que rien de lui désormais ne troublât l'existence de sa chère femme. Pascal se mit donc à écrire une de ses réponses habituelles, qu'il faisait volontairement, à grand-peine, insignifiante et presque froide. Clotilde, dans sa dernière lettre, sans se plaindre de Maxime, laissait entendre que son frère se désintéressait d'elle, amusée davantage par Rose, la nièce du coiffeur de Saccard, cette petite jeune fille très blonde, à l'air candide. Et il flairait quelques manœuvres du père, une savante captation autour du fauteuil de l'infirme, que ses vices, si précoces jadis, reprenaient aux approches de la mort. Mais malgré son inquiétude, il n'en donnait pas moins de très bons conseils à Clotilde, en lui répétant que son devoir était de se dévouer jusqu'au bout. Quand il signa, des larmes lui obscurcissaient la vue. C'était sa mort de bête vieillie et solitaire, sa mort sans un baiser, sans une main amie, qu'il signait. Puis des doutes lui vinrent. Avait-il raison de la laisser là-bas, dans ce milieu mauvais, où il sentait toutes sortes d'abominations autour d'elle ? À la Souleyade, chaque matin, le facteur apportait les lettres et les journaux vers 9 heures. Et Pascal, quand il écrivait à Clotilde, avait l'habitude de guetter pour lui remettre la lettre, de façon à être bien certain qu'on n'interceptait pas sa correspondance. Or, ce matin-là, comme il était descendu lui donner celle qu'il venait d'écrire, il fut surpris d'en recevoir une nouvelle de la jeune femme, dont ce n'était pas le jour. Pourtant, il laissa partir la sienne. Ensuite, il remonta, il reprit sa place devant sa table,